VOA Afrique, les infos, à Washington.
Jean-Roger Villon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. L'ancien président américain Barack Obama a rendu visite aujourd'hui à sa famille kényane à l'occasion de sa première visite depuis 2015 dans le pays d'origine de son père. Monsieur Obama est arrivé hier au Kenya et s'est entretenu dans l'après-midi avec le leader, le président Uhuru Kenyatta et avec le leader de l'opposition Raila Odinga. Lundi matin, il s'est rendu dans l'ouest du pays où, sous très haute sécurité, il est allé voir la matriarche de la famille Obama au Kenya, Sarah, que l'ex-président appelle grand-mère, même s'ils n'ont pas de lien de sang. Il devait ensuite rencontrer d'autres membres de sa famille avant d'inaugurer un peu plus tard le centre Sotiku créé par sa demi-sœur Obama. République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, candidat de son parti, le Mouvement de libération du Congo, à l'élection présidentielle du 23 décembre cette année. L'opposant congolais en liberté provisoire à Bruxelles, depuis le mois dernier, a promis à ses militants réunis en congrès de vite revenir au pays pour assumer cette charge. Thierry Kabundi de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
Jean-Pierre Bemba Gombo, récemment acquitté dans la première et la plus grosse affaire pour laquelle il était depuis 10 ans incarcéré à la Cour pénale internationale, a été investi candidat président de la République par son parti. Intervenant au téléphone depuis Bruxelles, le sénateur Bemba a remercié militants et militantes de son parti pour le choix porté sur sa personne et promis de revenir très bientôt à Kinshasa.
Une fois de plus, un grand merci pour la confiance que vous m'avez faite et j'espère de témoigner aussi à ma personne. J'espère vous voir prochainement à Kinshasa. Je vous remercie tous.
Délice Sanga, le secrétaire général d'Ensemble pour le changement, plateforme électorale de Moïse Katumbi-Chapwe, évoque pour sa part la nécessité pour l'opposition de se désigner un candidat commun à la prochaine présidentielle à moins de 2 semaines du début du dépôt des candidatures.
Nous avons tous formulé l'appel à l'unité avec Moïse Katumbi et d'autres acteurs politiques. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est venu le temps que tous les acteurs de l'opposition puissent se mettre ensemble pour que nous ayons une solution commune à la crise.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Cameroun, la candidature du président sortant Paul Biya à la présidentielle du 7 octobre prochain est loin de faire l'unanimité au sein de l'opinion publique. C'est via son compte Twitter que M. Biya, qui est âgé de 85 ans et au pouvoir depuis 1982, a annoncé vendredi dernier qu'il allait briguer un autre mandat. À Yaoundé, retrouvons Emmanuel Gilles Lentab, correspondant VOA Afrique.
Les jeunes Camerounais sont partagés après la déclaration de candidature du président Paul Biya, quoique ces derniers aient placé sa candidature sous le signe de la stabilité, la prospérité et l'unité au Cameroun.
Je vais laisser les choses et donner une chance à d'autres personnes pour que cette personne vienne montrer de quoi ils sont capables.
Au vu des actes que nous voyons qu'ils posent pour le pays, c'est à nous les jeunes de prendre leurs décisions.
Je pense qu'il peut, en ce moment précis où nous traversons quelques troubles, être le seul à même de faire revenir l'ordre.
À 85 ans, Paul Biya sera le plus âgé des prétendants au fauteuil présidentiel en octobre prochain. Une posture qui suscite également des avis contradictoires au sein de l'opinion publique à Yaoundé.
Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où actuellement les choses ne sont pas stabilisées, on n'attend pas plus que sa présence à son âge. Les contraintes qu'un tel déplacement à partir de Yaoundé ne puisse lui permettre de faire ce déplacement en toute quiétude.
Vous savez, à cet âge, on a plus, il y a certaines réflexions qu'on ne peut plus faire. Beaucoup de gens disent qu'ils ne travaillent pas bien.
Non, 85 ans, c'est l'âge majeur pour traiter les gens. Si on laisse les jeunes gérer le Cameroun, que deviendra le Cameroun demain? La vie est pour les vieux, pour les responsables.
Seuls les militants du RDPC, le parti au pouvoir, baignent dans l'euphorie totale. Paul Biya est l'homme de la situation. Professeur Elvis Ngolengole, coordonnateur de l'Académie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti qui a investi Paul Biya.
Cette candidature représente l'espoir pour les Camerounais, pour le Cameroun. C'est une candidature populaire, c'est une candidature républicaine. Son souhait, c'est que s'il est réélu, ensemble avec tous les Camerounais, ils vont faire de telle sorte que le Cameroun reste toujours stable et reste toujours prospère.
Le 19 juillet prochain, les Camerounais seront fixés sur le nombre de challengers du président actuel à avoir déposé leur candidature à Élection Cameroun, l'organe en charge d'organiser les scrutins au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Au Tchad, le gouvernement a lancé une opération de recensement physique des officiers et gardiens de la paix. Cette opération, pilotée par l'inspection générale du contrôle, consiste à dénicher les policiers fictifs qui grèvent le budget de l'État. Écoutons le ministre tchadien de la Sécurité publique, Ahmad Mahamat Bachi.
C'est une opération d'assainissement du fichier de la solde. Et le balai d'assainissement doit passer partout. Et on va encore faire l'audit du diplôme. Imaginez-vous, un policier, il est à la fois fonctionnaire quelque part, il est à la fois douanier. Mais voyez-vous ce désordre-là? Et malheureusement, c'est ça la réalité. Vous-même, vous ne serez pas d'accord avec celui qui est là à la maison, qui gagne 2-3 salaires, alors que vous, vous arrachez les cheveux pour gagner votre point. Deux poids, deux mesures. Ça ne peut pas passer dans la 4e République.
Ahmad Mahamat Bachi, ministre tchadien de la Sécurité publique. Il existe un lien étroit au Tchad entre la crise économique et les mesures d'austérité d'une part et les manifestations et la répression de l'autre, a estimé Amnesty International dans un rapport publié ce lundi. Depuis 2015, le Tchad est en proie à une grave crise économique, principalement liée à la forte baisse des coûts du pétrole brut et exacerbée par le manque de diversification de l'économie, selon Amnesty. Pour y faire face, le gouvernement a mis en place de sévères mesures d'austérité et a obtenu des aides financières internationales.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Lutte contre le terrorisme, l'islamiste algérien Jamel Begal, considéré comme le mentor de deux des auteurs des attentats de 2015 à Paris, a été expulsé vers son pays natal, l'Algérie, après sa sortie d'une prison française ce matin. Dans le viseur des autorités depuis le milieu des années 90, Jamel Begal a été déclaré expulsable en 2007, 2 ans après avoir été condamné à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Les autorités françaises qui souhaitaient le voir retourner en Algérie, pays qu'il avait quitté à l'âge de 21 ans, discutait depuis plusieurs semaines avec Alger des conditions de son retour. Une dizaine de civils maliens ont été tués par des djihadistes présumés dimanche dans le nord-est du pays, près de la frontière nigérienne, selon des groupes armés à dominante Touareg et les autorités locales. Plus d'une centaine de personnes, dont de nombreux civils appartenant en particulier aux communautés Peul et Touareg, ont péri ces derniers mois dans cette région où s'affrontent notamment des djihadistes ayant prêté allégeance au groupe État islamique et deux groupes principalement Touareg soutenant la force française Barkhane et l'armée malienne, le Gatia et le MSA. L'armée nigériane a subi de sérieux revers ce week-end après avoir perdu le contrôle de l'une de ses bases dans une attaque de Boko Haram. Elle est aussi à la recherche de 23 soldats portés disparus après une embuscade dans le nord-est. Abdourahman Dia.
Des combattants de Boko Haram ont pris ce week-end une importante base militaire au terme d'affrontements étendus, une embuscade à des soldats dans une autre attaque. Ces deux attaques témoignent de l'emprise des djihadistes dans le nord-est du Nigeria. Les insurgés ont envahi une base militaire de plus de 700 soldats dans l'état de Yobe, une région frontalière du Niger, où une centaine de jeunes filles avaient été enlevées il y a quelques mois. Le commandant de la base et 63 soldats ont pris la fuite pour trouver refuge à Gaïdam, un chef-lieu situé à une soixantaine de kilomètres, où sont attendus les 670 autres militaires en poste dans la garnison attaquée. Il s'agit de la deuxième attaque d'envergure en 2 jours de Boko Haram contre les forces nigérianes dans le nord-est du pays. Le président Muhammadu Buhari avait pourtant déclaré que la région était entrée dans une phase de stabilisation post-conflit. La recrudescence de la violence a mis la pression sur le président Muhammadu Buhari qui avait promis d'améliorer la sécurité dans le pays.
Le président russe Vladimir Poutine est arrivé à Helsinki pour son premier sommet bilatéral très attendu avec son homologue américain Donald Trump. L'avion du président russe s'est posé à 10h GMT à l'aéroport international de la capitale finlandaise. Donald Trump et Vladimir Poutine ont rendez-vous en début d'après-midi au palais présidentiel au cœur de la ville portuaire qui a une longue tradition d'accueil des sommets Est-Ouest. Au programme, face à face avec leurs seuls interprètes d'abord, puis un déjeuner de travail avec leurs équipes, ensuite une conférence de presse commune. Jean-Roger Billon, à ce micro, le prochain journal c'est dans 50 minutes et vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi à tous sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.